En septembre 2024, a ouvert un nouvel établissement scolaire à Lille, l'école Sérène. Ce groupe scolaire, fondé par Hervé Glazel en 2008, garantit avec des outils adaptés un accompagnement personnalisé pour les enfants présentant des troubles des apprentissages, appelés troubles 10. Présente dans plusieurs endroits en France, Lille a pour le moment 3 élèves à son actif, Sandra et Paul en 4e et 5e, et Titouan en CM1.
Souvent on commence avec Monsieur Bélanger, professeur des matières littéraires. Après on a la pause de 11h pour le goûter et la récré. Après on a encore un cours, quelquefois c'est encore avec Monsieur Bélanger. Et après on a la pause du midi. Après, sauf le lundi, on a une petite pause qui doit durer, je pense, 30 minutes. Et parce qu'après, on a maths puis sport. Et sinon, on a jusqu'à 14h et après, c'est deux cours l'après-midi.
2 heures de cours.
Ouais, 2 cours l'après-midi.
En cours de mathématiques avec Léo, leur professeur, cet après-midi, Sandra et Paul ne sont pour le moment que 2.
On va mettre notre casquette là pour cet après-midi, notre casquette de mathématicien-mathématicienne. Pour commencer, Sandra. Oui, tu es là. Paul.
Présent.
Ok, ça marche. Merci beaucoup.
Collégiens, les deux élèves reçoivent des cours personnalisés selon leur niveau.
C'est-à-dire 10. Que je veux ça, ça, ça. Qu'est-ce que je mets là ?
10.
10.
X 10.
Oui.
X 10. Et x 10, parce que du coup 10 x 10 ça va faire 100, et 100 x 10 ça va faire 1000, et 1000 x 10 ça va faire 10 000.
Ils travaillent énormément sur les ordinateurs, ce qui leur permet, grâce aux outils, de ne pas se mettre en difficulté seulement à cause de leur handicap. C'est ce que nous explique la directrice de l'école, Coralie Naz.
L'outil informatique est là pour compenser, donc créer de nouveaux systèmes de compensation pour pouvoir, atténuer, mais du coup passer outre le trouble. Il faut savoir qu'on accueille des enfants qui ont une notification, alors MDPH c'est mieux, mais qui ont au moins des bilans qui attestent de leurs troubles. Suite à quoi, quand ils arrivent, il y a le PC qui leur est automatiquement fourni, avec les logiciels, donc les bons logiciels en fonction de leur handicap. Donc ça ne sera pas les mêmes logiciels selon un enfant qui est dyslexique ou un enfant qui est dysorthographique ou dysgraphique. On a plein de petits outils en fait au CRN et le gros en fait c'est que tous nos supports pédagogiques sont adaptés aux enfants qui ont des troubles 10.
Et en revenant juste sur le côté financier, vous justement, comment est-ce que vous financez tous les outils qu'il y a ? Est-ce que c'est l'école Sérène, du coup l'organisme de base qui finance tout ça ? Est-ce que c'est propre à la région ? Est-ce que vous avez des partenaires ? Comment ça marche ?
En fait, faut compter pour une inscription à l'école Sérène, les frais mensuels s'élèvent à plus de 1000 euros. Entre 1000 et 1300 euros, selon les régions. Ces frais de scolarité exorbitants financent en fait les outils de compensation, financent les professeurs, on est à petit effectif, financent les locaux, parce que du coup, faut payer la gestion des locaux. Enfin, ça demande des frais, mais c'est compensé. En termes de subventions, les familles ont la possibilité, de par la reconnaissance MDPH, d'avoir une aide de la MDPH. Elle est très facilitée en région parisienne, dans la région du Nord, visiblement un peu moins. Mais parce qu'on ne nous connaît pas encore. Quand on nous connaîtra, ça sera peut-être plus facile. Ça peut être un mode de financement pour les familles. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des bourses. Il y a une association qui s'appelle la FOSCA qui peut délivrer des bourses pour nos élèves, qui aident au financement des familles. Vous voyez ? Donc en fait, il y a plein de solutions qui existent pour faire diminuer nos frais d'inscription, mais du coup pour que nous, on soit toujours dans cette même qualité en fait, d'accueil de ces élèves.
À leur disposition également, plusieurs solutions adaptées spécialement pour eux, pour les rendre les plus à l'aise possible au travail.
Toi, je vois que t'es sur un tabouret. Il sert à quoi ce tabouret ?
C'est quand j'ai besoin de bouger, je peux bouger. C'est pratique, oui, quand on est hyper actif comme moi et du coup, quand on a besoin de bouger, c'est pratique.
Ça te permet de quoi ?
Ça me permet d'être en cours et de rester quand même un peu concentré, mais être quand même en train de travailler.
Les heures de cours sont aussi adaptées selon leurs besoins. besoin, notamment avec les pauses cerveau.
En règle générale, nous, on essaie de se l'imposer à un certain moment. Il faut le voir avec le feeling des élèves. Là, quand on voit Sandra, elle commencer à mettre des signes de fatigue, ça bougeait beaucoup plus sur la
chaise. En fait, quand elle bouge les pieds comme ça très, très fort, et ben, ça veut dire qu'elle a besoin de faire une pause.
Elle a besoin de faire une pause. Donc, on le voit à force de connaître les élèves. C'est vraiment adaptable par rapport au taux de concentration qu'on leur demande. Parce qu'ils ont besoin aussi de se poser. Alors, il y a différents types de pauses cerveau. Moi, le lundi, je leur laisse écouter un peu de la musique. Sinon, on peut faire un peu de jeux de société. Ils peuvent se déplacer. Ça peut être des sujets de discussion. Ça peut être un petit peu de temps de lecture.
Pour Titouan, qui est encore au primaire, c'est un accompagnement encore plus personnalisé. Pour le moment, tout seul, avec la maîtresse des écoles, Alexandra, il sera bientôt rejoint par un camarade en cours d'année.
Donc, le rythme, on va dire, c'est comme dans une école standard, comme dans un programme scolaire standard. Par exemple, aujourd'hui, on commence par des rituels de début de journée. Donc là, en l'occurrence, c'est un rituel sur ça s'est passé pour parler de la culture générale, enfin voilà, travailler finalement le langage oral. Après, on passe en mathématiques. Donc par contre, en mathématiques, au niveau du cycle 3, c'est 45 minutes. Donc c'est échelonné avec des rituels, des phases d'apprentissage et des phases de consolidation par des jeux, par des activités, voilà, essentiellement.
Et vous avez une formation de professeur des écoles ?
Alors oui, moi j'ai une formation de professeur des écoles, j'ai passé mon concours, j'ai passé mon CRPE, mon master. Donc j'ai enseigné à l'éducation nationale, j'ai été prof à l'éducation nationale. Mais justement, c'est le fait de pouvoir accompagner les élèves au maximum. Quand on va pas se mentir, quand on a une classe de 28, c'est compliqué de faire du cas par cas. Alors que là, c'est vrai que l'avantage d'avoir 12 élèves au maximum, c'est vrai que c'est bénéfique pour eux, autant pour l'enseignant que pour l'élève. On peut vraiment se focaliser sur tel apprentissage, vraiment répondre au maximum à leurs besoins.
Et à contrario, c'est quoi un peu les difficultés ?
Et dire qu'il faut constamment se réinventer. C'est-à-dire qu'un élève ayant des 10, comme on l'appelle, a besoin de renouveau. Dans un sens, il y a besoin de renouveau, et dans un autre, ça dépend des troubles. C'est-à-dire que on va avoir que des 10 dans notre classe, donc il faut vraiment pouvoir adapter au maximum l'apprentissage. Et puis, il faut que ça soit concret pour eux, il faut que ça soit intéressant. Parce que c'est vrai qu'en fonction de... Ils ont tendance des fois à s'éparpiller, au niveau de l'attention, c'est peut-être pas toujours la même.
Au sein de leurs locaux, les enseignants seront accompagnés par des professionnels de santé qui pourront suivre de manière assidue et au quotidien l'évolution de leurs élèves.
On met à disposition un cabinet au sein de nos écoles, ce qui fait que les ergos, orthophonistes, orthoptistes, pédopsie, quoi, voilà. Chaque corps de métier qui a envie d'intervenir au sein de l'école fera partie intégrante de l'équipe et peut louer une partie, donc un bureau, comme un cabinet en fait à l'extérieur, mais pour que les prises en charge soient faites de l'école sereine. Ce qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aide les familles à ne pas courir partout et aide les professionnels à avoir du coup leurs patients directement sur place et dans le milieu du travail. C'est-à-dire que voilà, ils sont en plein apprentissage scolaire. Quoi, rien de mieux pour pouvoir rééduquer ou adapter en fait les outils, chose qu'ils savent faire. Donc voilà, donc vous pouvez trouver des orthophonistes, une ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, c'est possible, psy, pourquoi pas, pédopsy, pourquoi pas.
L'ouverture de nouvelles écoles sereines comme celle de Lille est l'aboutissement de tout un travail d'études et de recherche. C'est le rôle d'Hélène Blacher qui a participé et participe encore au bon fonctionnement de l'établissement lillois.
Mon rôle, c'était aussi de bien mesurer dans quelle ville on pouvait s'installer, s'il y avait des besoins particuliers. Et donc de faire le tour et à la fois des partenaires institutionnels, donc de pouvoir rencontrer les maires de nos villes, ou en tout cas leurs adjoints concernés par les sujets du handicap, de l'école et de l'éducation, de pouvoir échanger avec le conseil départemental, avec la maison départementale des personnes handicapées. Et l'idée n'était pas tant de savoir si ils pourraient nous aider, mais en revanche de savoir si le projet... Une école comme ça sur leur territoire, comment ils percevaient cela ? Est-ce que comme une menace ? Est-ce comme une bonne nouvelle ? Et il est important pour nous à chaque fois de s'installer en bonne intelligence avec les institutions et avec les futurs partenaires. Et donc de bien mesurer si le territoire est enclin à accepter des écoles hors contrat qui sont dédiées aux enfants qui ont des troubles. Donc j'ai les locaux que vous avez l'occasion de voir aujourd'hui, c'est moi qui les ai trouvés avec le fondateur l'année dernière, Monsieur Glazel, et j'ai eu à concevoir en fait aussi les plans pour ces locaux étaient vides, et donc concevoir en fait les espaces scolaires et installer l'école pour la rentrée future.
Mais à Lille, donc là dans la région Hauts-de-France, donc comment ça se passe ici? Est-ce que la ville était justement enclin à recevoir ce type d'école? Comment ça s'est passé?
Alors, on a eu des très bons échanges avec notamment avec la mairie qui encore une fois nous a pas mis du tout de barrière, comprenait tout à fait le but du projet et puis surtout ce qui je pense plaît aux institutions. Et ce qui est le cœur de CERN, c'est effectivement de se déclarer école passerelle. On n'est pas dans la captation d'élèves et nous le but c'est pas de scolariser un enfant du CP jusqu'à son lycée. Comme on a dû vous le dire, on est bien sur le CE2 jusqu'à la 3e. Donc déjà, de savoir qu'on n'est pas là pour vampiriser, entre guillemets, une cohorte d'élèves, je pense que ça rassure. Il y a quelque chose qui est très fondé, qui est très scientifique. Et donc aujourd'hui, on parle tellement de l'inclusion scolaire et de ce que ça signifie en termes pédagogiques, que notre discours y passe très bien. Donc on a eu évidemment de la mairie aucun frein.
Et est-ce que justement dans la région il y avait un nombre important d'élèves 10 qui étaient dans le besoin?
Alors c'est la région de France et selon la Cour des comptes celle où en fait il y a le plus d'élèves avec une reconnaissance de handicap. Donc on sait que c'est un territoire qui est où il y a beaucoup de besoins. Par ailleurs, on voit aussi en fait que ça se développe. Hein. Comme je viens de le dire, l'éducation nationale fait vraiment beaucoup. Et encore cette année, à la rentrée 2024, il y a eu de nouveaux dispositifs ULIS, etc., qui ont abondé le territoire. Mmh. C'est vrai que les Hauts-de-France, c'est très grand. Nous, on a fait le choix de s'installer à Lille, mais on sait très bien, et au regard de toutes nos écoles, en fait, on se rend bien compte que quand on ouvre une école quelque part, ce ne sont pas des résidents de la ville qui se scolarisent chez nous, ils peuvent venir de loin. Et donc c'est pour ça aussi qu'on choisit des grandes villes, c'est que même si c'est pas si simple au quotidien, des fois en fait c'est quand même mieux de prendre un train et d'avoir 50 minutes de train pour arriver dans une école où on est bien que de mettre 20 minutes pour aller à l'école mais de ne pas avoir envie d'y aller. Donc on a vraiment des familles qui font beaucoup de kilomètres pour nous retrouver et effectivement ce qu'on constatait c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les Hauts-de-France, dans le Nord plus particulièrement, mais en fait il y a quand même des petites distances et qu'en soi à Lille c'était pas du tout de trop que de proposer une alternative comme la nôtre.
Alors justement vous êtes hyper bien placé parce que vous êtes placé à côté de la gare, est-ce que c'est justement un choix aussi que vous avez choisi ces locaux pour ça?
Tout à fait. Le but pour nous, c'est de faciliter évidemment le déplacement vers l'école, idéalement en transport en commun, parce que dans les villes, beaucoup de familles se déplacent comme telles, ou au moins, en tous les cas, d'avoir un chemin un peu sécurisé. Donc, effectivement, très proche de la gare, des conditions, un environnement hyper... hyper calme, on voit les buildings mais en même temps on est dans un parc, enfin, c'est une grande chance. La ferme pédagogique, on s'est dit que ça pouvait aussi amener en fait de beaux projets scolaires. Donc oui, le lieu a vraiment été de toute façon très déterminant dans notre décision de venir s'installer à Lille.
Pour sensibiliser aux troubles des apprentissages et au fonctionnement de l'école CERN, l'équipe pédagogique de Lille organise régulièrement des conférences. Pour plus de renseignements, l'école est joignable au 01 45 32 00 20 et se situe au 52 rue de l'Alma à Lille. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.